voix nue. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Jacques Weber. Ce soir, pour un art hautement populaire.
Bonsoir Jacques Weber.
Bonsoir.
Alors pour cette dernière de la série À voix nue avec vous, j'aimerais qu'on parle de vos autres casquettes, tiens, puisqu'on a beaucoup parlé de l'acteur que vous êtes avant tout, du comédien que vous êtes. Mais vous êtes également metteur en scène, directeur de théâtre, écrivain également. J'aimerais qu'on parle de tout cela, réuni sous le haut patronage de l'art théâtral. Déjà un mot quand on regarde l'ensemble de votre carrière, et c'est ce qu'on évoquait dans l'une des premières émissions ensemble, le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la diversité. Diversité des rôles, diversité des pièces, des films, des metteurs en scène avec qui vous avez joué au théâtre, de Jean-Louis Barrault à Pascal Rambert, de Peter Stein à Alain Françon ou Jacques Lassalle qu'on évoquait dans la deuxième émission. Diversité également des réalisateurs avec lesquels vous avez tourné au cinéma, de Philippe Labraud à Pierre Garnier de Fer, de Catherine Corsini à Emmanuel Mouret, de Gérard Mordilla à Philippe Labraud, Yves Boisset ou Louise Buñuel, pour n'en citer que quelques-uns. La diversité également de votre carrière entre théâtre populaire et théâtre d'auteur. Est-ce que vous diriez que vous êtes un insatiable curieux, que ce qui domine, pour revenir à ce qu'on disait dans l'une des premières émissions, c'est avant tout l'ouverture au monde, un insatiable appétit des autres?
Ah, c'est curieux, parce que je vous aurais dit absolument le contraire. Je m'accuse. Alors là encore, si ma femme m'écoute, elle va hurler, mais je m'accuse de n'avoir pas la moindre curiosité. Je ne suis pas un homme curieux, je suis un rêveur, ce qui est complètement différent. Et lorsqu'on rêve, lorsqu'on marche, hop, on se prend une odeur, hop, on se prend par hasard un insecte ou une vache qui vous regarde et c'est très doux, voilà. Ça, je sais marcher. C'est très important de savoir marcher, je sais rêver. Mais par contre, je m'accuse, parce que la curiosité, ça veut dire s'arrêter et obstinément regarder plus loin que la première apparence, voilà. Alors même que moi, mais même, d'ailleurs, c'est ce qui peut être un reproche dans mon travail, j'ai tendance à capter et à me satisfaire d'une première perception de la chose. C'est comme quand je vous parle de Cyrano, c'est après coup. C'est après, en réfléchissant, parce que j'ai envie d'écrire, et comme j'écris, les choses se relibèrent. Mais lorsque je le travaille, j'accélère la marche et je cours. Voilà, je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là chez moi. Moi, je m'accuse vraiment de pas être assez curieux. Par exemple, je prends un exemple. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont en tournée, quand ils jouent, ils cherchent tout de suite le premier musée. Ah, c'est là qu'il y a eu un tel. Ah, c'est ça qu'il faut voir. Ah, c'est ceci, c'est là. Moi, je reste dans ma chambre. Je le dis franchement. Et qu'est-ce que je fais dans ma chambre? La plupart du temps, je revois le texte que je vais jouer. Je me repose obstinément. Je vais marcher. Hein. Je vais marcher très longuement. Et après, je me repose, que j'ai peur que la marche m'ait enlevé de l'énergie pour jouer le soir. Et sinon, je rêve. Je rêve dans ma chambre. Je rêve soit en écoutant la radio, soit en flânant comme ça devant la télé. Encore, c'est pas... voilà. Les journaux, je lis beaucoup les journaux. Mais là aussi, je les lis rapidement. Et d'un seul coup, je dis, mais c'est une catastrophe ambulante. Ce Weber, il doit être un ennui total, parce que, et ma femme hurle toujours, parce que je dis, mais moi, je fais rien. En fait, tout le monde dit que je suis un super actif et tout. Et je n'arrête pas de dire, mais non, je fous rien. Je passe des journées entières dans ma piole et je joue le soir. Mais jouer le soir, c'est 1h30. Mais oui, c'est là où je suis complètement idiot. C'est comme si je disais que Usain Bolt ne faisait rien par rapport à un marathonien. Usain Bolt, il court le 100 mètres. Et puis c'est, voilà. Donc, il y a des fois, faut aussi arrêter de se flageller. J'ai une tendance idiote à faire ça. Mais ce qui est vrai, c'est que non, je ne suis pas un curieux. C'est bien ce qui m'énerve d'ailleurs.
Mais vous avez, vous le dites, une curiosité pour l'autre, en tout
ouais,
cas.
Oui.
Peut-être en vieillissant aussi, on gagne en tolérance ou en indulgence envers les autres.
Ça, l'autre, oui. La personne humaine. Mais si vous voulez, il y a un moment, voilà. Et à un moment donné, vous prenez vous voyez quelqu'un, vous le rencontrez. Alors ce qui est très marrant, c'est vous l'aimez pas tout de suite. Il y a un truc. Enfin, moi, je sais que c'est un peu comme ça. Ça, il y a d'abord une première intuition, puis ensuite, je sais tellement que c'est tellement compliqué un être humain que je l'écoute et je l'aime pas de façon lointaine, mais c'est comme pour les textes. J'ai pas envie non plus d'aller trop loin. Je sais pas comment expliquer ça. Je préfère m'en tenir à une chose un peu globale. Enfin, c'est impressionniste. Voilà, je cherchais le mot. Je suis fou des impressionnistes. Je suis fou du film Turner, qui consiste à... On voit Turner, d'abord, il parle très peu, il fait... Ça, j'adore cet acteur quand il joue Turner. Et puis, à un moment... Alors c'est le scandale parce que Turner, on comprend rien de sa peinture. Et cette espèce de brume constante où l'orange de l'aube est prisonnière ou l'orange du crépuscule est prisonnière comme ça. Et puis d'un seul coup, il regarde un tableau qui est complètement comme ça, très nébuleux, comme toute l'œuvre de Turner. Puis il regarde, puis il fait, et il prend un petit pinceau et il met une tache de rouge. Et c'est une des œuvres les plus célèbres. C'est le soleil d'un seul coup. Et d'un seul coup, le tableau, paf. Alors ça, moi, c'est ça qui m'est...
Mais là, je vous ai perdu. Hein. J'ai perdu le fil.
Eh ben, moi aussi.
Est-ce que vous vous êtes interdit des choses? Si je pose cette question, elle est quand même assez précise, en tout cas après assez ciblée. Vous savez qu'il y a une spécificité française qui est d'opposer le théâtre subventionné au théâtre privé. Le théâtre subventionné serait
élitiste. Sont des grandes conneries.
Et intellectuel et le théâtre. Bon, il y a un grand acteur, Laurent Terzieff, pour ne pas le nommer.
Qui avait dit, il n'y a pas les théâtres.
Il n'y a pas ceci ou cela. Il y a ceci et cela. Lors des Molières en 2010.
Ouais,
qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez aussi été dans les deux?
Ça fait plaisir parce que le seul moment où les Molières ont été dignes d'exister à peu près, c'est quand ces gars-là avaient la parole. Quand Ionesco, un peu bourré, s'écroulait sur le premier balcon et commençait à parler du théâtre. Ouais. Et puis Terzieff, puis Peter Brook, et puis Chéreau. Là, ça voulait dire quelque chose. Bon, maintenant, c'est une espèce de chose un peu gériatrique et sans intérêt. Et très parisienne.
Vous inscrivez dans cette filiation?
Ouais, enfin, je j'aime ces gens-là, ça veut pas dire...
Dans la conception du théâtre. Il y a quand même une constante aussi chez vous. C'est le côté populaire de qualité. D'autres disaient élitaire pour tous. J'aimerais bien que vous parliez de ça, Jacques Weber.
Oui, alors moi j'ai toujours très peur des discours autour de tout ça. Ce qui est certain, c'est que historiquement, d'abord il y avait les théâtres dits privés, mais qui étaient privés aussi bien en France que à Paris. C'est très important puisque maintenant il n'y a plus de théâtre privé en France. Il n'y a qu'à Paris que le théâtre privé existe. Mais comme la culture et les médias sont extrêmement jacobines la plupart du temps, on parle mille fois plus de ce qui se passe dans le théâtre à Paris que sur le plan national. Lors même que je pense vraiment, sans agressivité, qu'il y a énormément plus potentiellement de choses très passionnantes qui se passent sur l'ensemble du territoire que si on s'en réfère uniquement à l'activité parisienne. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que au 19e, c'était pas ça, c'était que tout le théâtre était privé. Et même au début du 20e, au début, les théâtres privés ont fait merveilleusement leur devoir et étaient formidablement libres parce que le théâtre existait encore totalement socialement, enfin de façon beaucoup plus importante que maintenant, et c'est le théâtre privé qui a amené les Beckett, les Ionesco, un nombre considérable d'auteurs contemporains que nous jouons maintenant. Après, le théâtre privé s'est fait petit à petit dévorer par les nécessités commerciantes et commerçantes. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps mauvais. Je m'empresse de dire que non, ça serait une grande stupidité. Vous avez du théâtre de boulevard, j'aime pas cette expression, mais qui est de qualité. Il y a parfois des rencontres entre des textes relativement légers et des acteurs grandioses, et après tout, c'est formidable, et ça doit exister. Et si ça fait du plaisir aux gens, tant mieux. Mais voilà, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Ce qui est certain comme moi, c'est que je, comme Pierre Arditi, par exemple, on fait partie de ces gens qui, n'ont pas de barrière.
Non,
la barrière, la seule, c'est la relation avec le metteur en scène. Alors là, c'est très important. Il y a, à mes yeux, des gens qui sont aussi metteurs en scène que je suis charcutier et qui ont le haut du pavé dans le théâtre parisien. Et c'est très effrayant. Enfin, ce qui compte, c'est l'exigence, que ce soit privé, public, et c'est l'exigence d'un metteur en scène continuée par l'exigence des comédiens. Ce qui est parfois oublié. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'il y a de certains endroits, je me dis, mais comment c'est possible de présenter quelque chose comme ça? C'est pas bien. Voilà, mais j'irai pas plus loin. Je dis simplement que, encore une fois, je trouve formidable ce qu'a dit Terzieff. Il y a ça et ça. Il y a le théâtre et il y a des choses merveilleuses qui sont proposées dans le théâtre privé. Mais c'est vrai que, heureusement, Dieu merci, c'est pour ça que je dis heureusement qu'il existe encore, car c'est une part de liberté et une potentialité de divertissement au sens profond du terme qui existe, hein, divertissement au sens de divertimento. Mais peut-être, je dis presque surtout, heureusement que le théâtre public existe. Pourquoi? Ben parce que il n'est pas englué et gangréné par les problèmes économiques, quoique en ce moment c'est autre chose, et il peut encore vraiment proposer des expériences magnifiques et pratiquer un théâtre réellement contemporain. Quoi, voilà.
Vous parliez, Jacques Weber, de Paris et du reste de la France, de cette dimension très jacobine, très centralisée à Paris. Il se trouve que vous avez dirigé deux théâtres, l'un à Lyon, l'autre à Nice, et pendant longtemps. À Lyon, c'est de 79 à 85, à Nice, c'est de 86 à 2001. Que retirez-vous de cette expérience de directeur de théâtre? Déjà, est-ce qu'un bon artiste fait un bon directeur? Quelles qualités sont requises pour, selon vous, aujourd'hui, avec le recul qui est le vôtre, quelles qualités sont requises pour faire un bon directeur de théâtre?
Ben d'abord, je crois que c'est pas obligatoire du tout qu'un bon artiste, un bon comédien soit un bon directeur de théâtre. Et je pense que si moi, je n'étais pas tombé sur un compagnonnage absolument exceptionnel, et mais vraiment, je pèse mes mots, je ne serais pas... Et d'ailleurs, je vais vous dire franchement, alors là, ça va hurler, je n'ai pas fait date dans la direction des théâtres, faut pas l'oublier. Quand on voit ce qu'ont fait certains, je pense aux Amandier de Chéreau, je pense à Planchon, je pense à Chéreau, enfin bon, bref... voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que j'avais quelque chose de l'ordre justement de ce que vous disiez, l'ouverture sur les autres, je pense vraiment une vraie générosité, aussi bien par rapport au public que par rapport aux autres gens qui avaient envie de travailler chez moi. Et on a provoqué des choses que peut-être ma naïveté ou ma candeur permettait, qui chez d'autres n'aurait jamais existé. Je prends l'exemple qui m'a beaucoup beaucoup touché de Cluzet et Marie Trintignant, paix à son âme, et qui sont venus, qui étaient un peu éméchés dès le matin, et qui m'ont proposé un spectacle qui avait été refusé à peu près tôt. Il n'y a pas que les chiens qui s'aiment. Déjà, la fraîcheur de leur amour, la beauté folle de Marie, la passion de François, et quand ils m'ont parlé de ça, et puis j'ai adoré le titre. Il n'y a pas que les chiens qui s'aiment. Eh ben, j'ai pas réfléchi une demi-seconde, j'ai dit oui, on produit, on y va. Et ça, c'est des choses que je suis capable de faire que d'autres ne feraient pas, mais ils font d'autres choses magnifiques. Mes équipes me l'ont rappelé, même en m'engueulant, on m'a dit, oui, je pense que j'ai eu ma place à Nice, j'ai eu ma place à Lyon, voilà, j'ai eu une place un petit peu originale, un peu particulière d'un homme très ouvert, très chaleureux, je crois, voilà. Partant pour des choses un peu atypiques, un peu folles, un peu, puis aussi provoquant des belles choses. Mais alors là, ça c'est très important. J'avais une équipe qui me disait, mais pourquoi tu ne vas pas voir ces gens pour lesquels t'as tant d'admiration? Vas-y, fais-le. Ils m'ont poussé. Et c'est comme ça que j'ai osé dire à Françon que j'avais envie de travailler avec lui, ou Lavelli, ou enfin plein d'autres. Et c'est comme ça que ça s'est un peu construit. Et voilà. Mais grâce à une équipe, oui, c'est sûr. C'est pour ça que je vous disais, je vous demande pardon, c'est que on n'est jamais seul. Le théâtre, ça met en chantier toute une équipe qu'on a un peu tendance à oublier, mais une énorme, c'est une sociabilisation en marche, quoi. C'est très important. Et puis il y a une phrase qui me revient, pardon, hein, qui est très importante, que m'a dit Stein un jour, c'est on n'y arrive pas, mais on continue. C'est la règle. C'est formidable. Je trouve ça, je sais pas qu'est-ce que ça a à foutre. Mais voilà, c'est que dans ce centre, dans ces centres dramatiques, quand on me dit mais à quoi ça sert le théâtre, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, je dis on n'y arrive pas, mais on continue. C'est très important. C'est la permanence d'un lieu de liberté, de questionnement. Voilà. Et poser les questions, c'est déjà un acte de liberté. Donner les réponses, c'est plus ambigu. Voilà, c'est ce que je crois.
Jacques Weber, c'est aussi dans ces théâtres-là, pas seulement, mais c'est aussi dans ces théâtres-là que vous avez dirigé, que vous avez mis beaucoup de pièces en scène. Dans les nombreuses pièces que j'ai sous les yeux, que vous avez montées, on trouve beaucoup de classiques. Beaucoup de classiques. Vous avez un goût, une prédilection, disons, pour les textes classiques.
Je ne suis pas très curieux.
Je ne sais pas, ça peut être une curiosité voilà. Pour le classique. Mais non, effectivement, le théâtre contemporain, les auteurs
alors,
vivants vous intéressent
moins. Oui, je crois que ce qui se passe aussi, c'est que je suis un peureux. Comme dit le gars dans Les méfaits du tabac que je joue en ce moment, j'ai affreusement peur. Et c'est vrai que dans les classiques, je trouve un rapport confortable n'est pas le bon mot, mais un rapport de quiétude avec les classiques chez moi. Bon, je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça, mais très jeune. Il y a quelque chose dans l'oreille qui a dû me frapper à une époque. Est-ce que c'est la musique des opéras de ma maman? Est-ce que c'est des discussions de mon papa? Je sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est classique en moi. Et je me sens bien dans les vers. D'ailleurs, je suis un de ceux, alors ça je suis sûr, qui parle le vers comme pas beaucoup. Et ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ça revient à ça, c'est que je me sens bien là-dedans et je suis pas du tout, je n'ai pas été, ça j'en suis sûr, je n'ai pas été assez curieux du théâtre contemporain. Mais vraiment, je m'en veux beaucoup, à tel point que je suis... Pascal Rambert a démarré tout jeune homme chez nous, c'est mon équipe qui l'a pris en main. C'était avant moi, ça, c'était avant moi. Mais après, quand on m'en a reparlé, j'ai pas eu l'envie de... Pendant un moment, j'ai pas eu l'idée de dire, bah tiens, viens écrire une pièce, puis allons-y. Et c'est maintenant que je découvre Pascal Rambert à 69 ans.
Vous avez joué dans une pièce, architecture avec lui.
Et c'est un immense auteur. Et puis, il y a une vingtaine d'années que je me suis mis à vraiment mieux connaître Sarah Kane, Thomas Bernard ou des gens comme ça. Mais avant, je connaissais pas bien, je savais pas ce que c'était. Alors là, je m'en veux beaucoup. Ça, c'est là où je dis, mais non, je suis pas curieux. Voilà. Et moi, si j'ai du temps à repasser, ben je continue à relire Maupassant, Tolstoï, Flaubert, etc. Mais j'ai alors bien sûr, j'en lis parfois, des auteurs contemporains, ça m'arrive, mais beaucoup moins. Et ça, c'est quelque chose chez moi qui est très très bizarre. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Hein, je suis comme ça. Voilà.
Dans vos autres activités qui sont liées, hein, de toute façon, Jacques Weber, il y a les écrans, mais les écrans de télévision. Il se trouve que vous avez aussi ravivé un peu le genre du théâtre à la télévision. On en parle beaucoup ces temps-ci, depuis le confinement en particulier, puisque on a tous pu voir un certain nombre de pièces, et notamment des classiques à nouveau à la télévision. La Comédie Française a mis beaucoup de ses pièces à disposition. Vous-même, vous avez monté Le Misanthrope, Ruy Blas, Figaro. Il y a un Vania,
qui se prépare pour la
télévision.
Oui. Ça a été une des expériences les plus folles, ça a été, et ça c'est vraiment moi qui en ai eu l'idée. Alors moi, voilà, je suis capable de choses comme ça. Je suis capable de dire, je vais aller jouer dans une boucherie, je vais aller jouer dans des bistrots, des grands textes. Voilà, c'est des choses que j'ai été celui qui a un peu initié le premier, les spectacles seuls où on mélange tous les textes, où on improvise avec les textes, etc. Bon,
mais pour dire que le théâtre n'est pas qu'au théâtre.
Non, voilà, oui, ça c'est important. Et puis, à la télévision, j'ai dit à Canal+, c'était la grande époque de Canal, où c'était prêt à tout. Je dis, mais il faudrait relancer le direct, parce que ce qui lie la télé et le théâtre, c'est le direct, c'est l'art du direct. Et d'un seul coup, ils m'ont dit, ok. Donc, on s'est retrouvés à répéter pendant un mois. Après, avec des studios, on avait tout ce dont on dispose, tout ce qui était possible. Et on a fait en direct, c'est-à-dire, vraiment, avec je sais pas combien de caméras, les Loumas, les trucs, les machins, avec une distribution hallucinante. Il y avait Balmer, Corsan, Chenet, Marie Trintignant, Roman Boringer, qui était une énorme vedette de l'époque et tout. Et on a joué Le Misanthrope comme ça. Mais vous vous rendez compte, la pression qu'il y avait, voilà. Et ça, pour moi, ça a été très indicatif, parce que là, on avait saisi la matière, la peur organique de l'acteur sur le direct, et en même temps l'intimité que proposait l'écran et le gros plan. Je n'ai jamais aimé la retransmission télévisuelle. Je trouve que ça marche toujours sur deux distances. Si on retransmet un spectacle du théâtre, l'acteur est paumé, il est sur deux distances, et sur la distance théâtre, on vient le capter comme ça. Donc on voit surtout un effort qui n'a rien à voir avec la réalité du cadre. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Et donc j'ai proposé, il n'y a pas longtemps, et ça se tombe bien parce que la télé veut aller vraiment ouvrir, un Vania avec un peu les mêmes systèmes. C'est pas de décor, pas de costume, donc l'acteur nu presque. Ça renvoie à tout ce qu'on pouvait dire au début. Et puis, 3 semaines de répétition, 3 semaines et demie et 5-6 jours de tournage. Et dans un théâtre comme ça. Et ça, je viens de le faire sur Vania. J'ai eu la chance inouïe d'avoir des gens comme François Morel, Audrey Bonnet, Stéphane Caillard, Catherine Ferrand, enfin des gens inouïs. Et vraiment, c'est pour moi une... On va le voir bientôt, mais c'est pour moi une réussite qui me donne confiance, qui est quand même pas si fréquent, pour aller vers d'autres expériences de ce type. Et j'ai une envie folle, d'abord de retravailler avec ces gens, d'inviter des gens que j'aime, de solliciter des expériences de ce genre. Voilà, ça c'est une grande envie.
Est-ce que c'est une façon aussi pour vous d'attirer un nouveau public au théâtre ou de nouer des relations, disons, avec un public qui ne va pas dans les théâtres par la télévision?
Vous savez, je crois que vous m'en voudrez peut-être de dire ça, mais je ne sens plus en moi du tout je n'ai pas envie de mentir en disant que j'ai des préoccupations pédagogiques ou sociologiques. Je sais que tout ça ne veut pas dire grand-chose. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait une rencontre, ça oui. Et je souhaite toujours aller dans un sens qui soit ouvert dans la possibilité d'une rencontre de qualité, une rencontre d'exigence et de qualité. À partir de là, c'est tout. Je sais qu'il y a moins d'1% de gens qui regardent le théâtre en France. Le français, alors que c'est lui qui va le plus souvent au cinéma en Europe, je crois, il va 2,5 fois par an au cinéma. Donc voilà, ce sont des chiffres. C'est des chiffres assez épouvantables. Naturellement, on n'a qu'une envie, c'est que ça change et ça augmente. Mais je pense que au moment où l'on agit, on ne peut pas dire « je fais ça pour ça ». Ça me semble un peu des discours que j'entends souvent et qui...
Ils sont pas les vôtres.
Voilà. Merci beaucoup. C'est ça.
Vous n'avez jamais eu envie d'enseigner? Dans des écoles de théâtre, par exemple?
Si, et plus jamais de ma vie, je ferai ça. Alors, ça, c'est très intéressant. Non, parce que transmettre, c'est encore autre chose. Transmettre, je crois que qu'est-ce que je peux faire de bien? Je peux transmettre quoi? Aucune théorie. Je peux
ça, on a bien compris.
Mon questionnement. Mais mon questionnement, c'est 55 ans d'expérience physique. J'étais sur le cheval, j'étais sur la selle, donc je peux apprendre à quelqu'un à monter à cheval. Ça, oui. Non, mais c'est ça, c'est très physique. Donc là, oui, je peux parler. Mais théorie, non. Par contre, d'enseigner, non. Pourquoi? Un jour, François Florent m'a demandé de faire des stages. J'étais très jeune à l'époque. Et j'ai vu à quel point on pouvait être regardé comme une espèce de Deus ex machina, de papa de tout le monde, entre autres, de papa de jeune fille. Et j'ai vu à quel point tout ça était extrêmement dangereux sur le plan relationnel, quoi. C'est-à-dire que les gens vous prennent pour leur... vous êtes la nounou, le papa, je sais pas, je trouve que tout est falsifié et que sur des gens jeunes, c'est extrêmement grave la responsabilité qu'on a. Enfin, c'est ce que je pense, hein, et j'ai pas envie de l'apprendre parce que je me sens incompétent pour ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est solliciter des gens pour les mettre en scène parce que je les aime au cours d'art dramatique et vous retrouvez parfois devant des gens que vous êtes un peu obligé de faire travailler, mais que vous n'aimez pas forcément, et que vous n'avez pas choisi par rapport à un travail précis. Donc, c'est pas mon truc, quoi, voilà.
Jacques Weber, on arrive au terme de ces entretiens, de ces à voix nues. Quelques petites questions pour terminer.
Oui.
Dans l'entrée des mots, hein, de vos ouvrages, puisque vous êtes aussi un amoureux des mots, on l'a compris, vous écrivez « En faisant du théâtre, je me suis toute ma vie remis dans le noir pour trouver la lumière ». Est-ce que vous avez trouvé la lumière?
Non, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je n'y arrive pas, mais je continue. C'est très bien exprimé, c'est ça. De toute façon, il y a un truc, quand je disais ça, je me souviens très bien que je pensais très fortement à ce passage surprenant de la naissance. Enfin, il y a un truc quand même qui est fou, on est dans le noir, dans votre ventre à vous. Mesdames, ce que, hélas, nous ne connaîtrons jamais. Et puis, on sort et la lumière est là. Qu'est-ce qu'on va en faire? On est démunis devant elle. Et après, peut-être qu'on passe sa vie à essayer de se retrouver bien dans la lumière. Voilà, c'est peut-être ça.
Quel est votre rapport à la reconnaissance? Reconnaissance du public, reconnaissance de vos pairs, reconnaissance critique?
La reconnaissance critique, ça, il faut oublier ça, parce que ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ça peut compter dans une carrière, mais enfin bon, ça n'a pas d'intérêt.
Une mauvaise critique, c'est pas important. Vous touchez.
ça peut toucher, mais je m'en veux d'être touché. Par contre, je suis très fier qu'un homme comme Peter Stein me reconnaisse et ait envie de travailler avec moi. Je suis très fier que des gens comme Françon, comme Rapneau, comme enfin, plein de gens ont été m'ont demandé. C'est-à-dire, bref, je suis très fier lorsque des gens pour lesquels j'ai une grande admiration, je leur suscite du désir, quoi. Ça me fait plaisir. Oui, ça j'en suis fier. Voilà, ça c'est une reconnaissance qui est importante pour moi. Et puis, bien sûr, la reconnaissance du public. Trouvez-moi un acteur qui vous dise qu'il se fout de la reconnaissance du public. Par contre, au moment où vous jouez, il faut absolument pas être dans ce rapport-là. Il faut être dans un rapport amoureux, danser avec le texte, pas autre chose. Et c'est comme ça que les gens vont dire « Oh là, je crois ».
Quel rôle, quelle pièce vous regrettez de n'avoir pas joué, s'il y en a ?
Non, quel metteur en scène je n'ai pas rencontré. Ce serait plutôt ça, parce que les rôles dépendent du metteur en scène avec lequel vous travaillez. J'aurais adoré être mis en scène par Patrice Chéreau. Ça, c'est un de mes grands regrets. Comme mon grand regret, c'est de n'avoir jamais même pu serrer la pogne à Jean Gabin quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est des regrets idiots. Mais Chéreau, ça, alors là, j'aurais adoré être mis en scène par cet homme. Voilà, les rôles, il y a des rôles que j'aurais envie de reprendre parce que ils ont été merveilleusement mis en scène, mais je pense que je pourrais maintenant les jouer mieux que je ne les ai joués. Je pense que j'ai mis trop de temps à découvrir Tchekhov. Ça serait dû vraiment le jouer plus tôt. Et puis certains Shakespeare, mais là j'ai le
Roi Lear,
avec le Roi Lear. Mais j'aurais peut-être aimé en faire quelques-uns avant, voilà.
Vous avez consacré un livre à Flaubert aussi. Vous avez mis en scène la correspondance de Flaubert. Il y a une phrase que vous citez et j'aimerais qu'on termine là-dessus. Vivons en bourgeois et pensons en demi-dieu. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ?
En fait, c'est une façon tout à fait synthétique d'exprimer quelle est finalement la place d'acteur. C'est regarder, vous êtes où ? Là, vous êtes dans un appartement bourgeois. Et est-ce que ça m'exaspère ou est-ce que ça me contente? C'est peut-être les deux à la fois. Ça, j'en suis totalement content et en même temps tellement conscient que ça peut me poser plein de questions. Donc, je m'efforcerai, et c'est ma jouissance, de penser en demi-dieu sur scène. Car oui, je n'ai soif que de cette spiritualité que je retrouve maintenant quand je joue. Quel que soit à peu près, quels que soient les textes, de toute façon, je m'arrange toujours pour jouer là où ça vit fort, où ça vibre. Mais quand vous jouez Rambert, quand vous jouez Tchekhov, quand vous allez jouer le Roi Lear, quand vous allez peut-être jouer Grimbert et compagnie, même s'il s'agit de choses très très concrètes comme Grimbert, par exemple, auquel je pense.
Jean-Claude Grimbert.
Il y a réellement, au moment où on franchit la scène, quand vous retrouvez peut-être avec quelqu'un comme Christine Murillo, ou quand moi je me retrouve devant Audrey Bonnet, Denis Podalydès, tous ces gens qui m'ont accompagné dans l'architecture, ou en ce moment, dans Tchekhov, avec Stein et mes deux amis, il y a quelque chose là-haut, quoi. Il y a quelque chose là-haut. Il y a des fils avec là-haut, alors aucune religion, surtout pas, qui viennent pas nous emmerder là-dessus, mais il y a une immanence, c'est sûr.
Merci beaucoup Jacques Weber.
Merci à vous. Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Caroline Brouet avec Jacques Weber. À Voigny, réalisation Vanessa Nadjar, prise de son Nicolas Mathias, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voigny serait écouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.